Il est 7h, bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 20 mai, Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Mariupol désormais ville russe, ou presque, depuis que se sont rendus les combattants ukrainiens retranchés à Azovstal. Leur sort fait l'objet d'intenses tractations. Nous sommes en direct de Moscou dès le début du journal, après les autres titres, Anaïs.
La douleur des victimes des attentats du 13 novembre exprimée une dernière fois à la barre. Aujourd'hui, plus que quelques heures pour déposer sa candidature aux législatives, le parti Reconquête d'Éric Zemmour étouffé par un Rassemblement National omniprésent. Et puis Cannes, Evangelis décédé hier. Retour dans ce journal sur une longue histoire commune.
Invité et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, c'est le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux ce matin. Quelle priorité climatique pour le gouvernement d'Elisabeth Borne? Et à 8h20, on parlera encore d'économie dans le grand entretien de la matinale avec le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Le standard d'Inter est ouvert et il attend toutes vos questions. 01 45 24 7000.
France Inter. C'était le 21 avril, Vladimir Poutine affirmait que la ville de Mariupol était tombée sous contrôle russe. Un mois plus tard, la réalité du terrain lui donne raison. Dernière poche de résistance, les combattants ukrainiens retranchés dans le complexe sidérurgique d'Azovstal ne sont plus qu'une poignée. Plus de 1730 se sont rendus aux forces russes depuis lundi. Même si Kiev se refuse à parler de reddition, dans cette guerre de communication, les images diffusées par Moscou sont explicites. Des cohortes d'hommes en tenue de combat, émergeant à l'air libre. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Anaïs.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Le sort de ces hommes va être au cœur d'intenses négociations.
Oui, et ces négociations, elles ont déjà commencé, hein. Du moins c'est ce qu'en disent les Ukrainiens, avec l'implication de la Croix-Rouge et de l'ONU. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces hommes qui viennent de se rendre ou qui restent encore dans l'usine sont des héros pour les Ukrainiens et au contraire des criminels de la pire espèce pour les Russes, des néo-nazis, comme l'explique le pouvoir. Du côté de Kiev, on cherche à les sauver, à montrer qu'on ne les lâchera pas. On réclame déjà leur échange contre des prisonniers de guerre russes. Du côté de Moscou, on affirme que ceux qui se rendent sont bien traités, mais leur sort reste très incertain. Plusieurs politiques de haut niveau ici à Moscou, dont le président de la Douma, réclament qu'ils soient traduits en justice. Et dans 8 jours, la Cour suprême russe doit examiner une requête du parquet demandant le classement du régiment Azov, auquel appartiennent une bonne partie des défenseurs de Mariupol, comme organisation terroriste. Cela les exposerait à de très lourdes peines en Russie. Mariupol n'est plus un enjeu militaire aujourd'hui. La conquête par les Russes est actée, mais elle reste un enjeu humain et symbolique pour les deux parties.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Et justement, comment les prisonniers ukrainiens seront-ils traités par les Russes? Voilà un éclairage ce matin. Le témoignage d'Anna, son père a participé à la bataille de Mariupol, puis a été fait prisonnier. Thibault Lefebvre nous raconte.
C'était le 17 mars dernier. Sergui, c'est un prénom d'emprunt, est arrêté par les Russes à Mariupol. Il est alors transféré dans une prison de Donetsk en territoire séparatiste. Hospitalisé quelques jours suite à une attaque cardiaque, il arrive à joindre brièvement ses proches, dont sa fille Anna, à qui il n'avait pas donné de nouvelles depuis le début de la guerre.
C'est inhumain. Ils sont une quarantaine dans une petite pièce. Ils partagent la nourriture, l'eau qui n'est pas propre et les toilettes. Ils ne vivent pas avec le minimum qu'ils devraient avoir.
Sergui, qui n'appartient pas au bataillon Azov selon sa fille, mais à la brigade territoriale, est soupçonné de collaboration avec l'ennemi. Il est actuellement en attente de son procès.
Il est accusé de terrorisme vis-à-vis des séparatistes de Donetsk et de s'être entraîné avec le régiment Azov. Il sera déclaré coupable sans preuve et ils feront tout ce que la Russie décidera.
Et si jamais Moscou envisage un éventuel échange de prisonniers, le père d'Anna est sur une liste de détenus régulièrement mise à jour par la Croix-Rouge et le gouvernement ukrainien.
Et ce témoignage recueilli par Thibault Lefebvre est à retrouver aussi sur franceinter.fr. Les Russes accentuent par ailleurs la pression dans le Donbass, transformé en enfer, bombardé sans relâche selon le président ukrainien.
Il est 7h05, des familles brisées à Anaïs, et des enfants victimes collatérales des attentats du 13 novembre 2015.
C'est la cruelle réalité que rappellent depuis lundi les victimes qui n'avaient pas pu témoigner lors des 5 semaines dédiées à cela en octobre. Dernier jour de débat aujourd'hui au 125e jour d'audience. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Et dernière victime attendue donc encore aujourd'hui à la barre qui nous replonge dans l'horreur.
Pourtant, après près de 350 témoignages en octobre, on croyait avoir tout entendu de l'horreur du Stade de France, des terrasses, tout connaître jusqu'au moindre recoin du Bataclan. Mais non, avec Carena, la cour a encore découvert ce placard technique de la salle de concert, minuscule réduit, qu'elle partage des heures durant avec cet autre spectateur dont elle découvre alors le prénom, Nicolas, avec lequel elle a ressenti cette peur épaisse comme de la soupe, décrit-elle à la barre. Les larmes ont une nouvelle fois coulé avec les mots de celui qui n'était pas né ce 13 novembre 2015, ce garçon de 5 ans et demi dont le texte est lu à la barre. Ils ont tué mon papa et ça c'est vraiment pas bien, ils sont pourris. Comme une banane pourrie. La dignité l'a encore emportée avec Sylvie, mère endeuillée, qui a confié espérer que par ce procès, une graine s'est posée dans le cœur des accusés. Alors, tandis que les débats s'achèvent, on ne peut que constater, il y eut tant à dire sur cette funeste nuit.
Et une fois les débats clos, lundi, place aux plaidoiries, Charlotte.
Plaidoiries des avocats de partie civile, tout d'abord, ainsi le prévoit le code de procédure pénale. Ils sont 300 au total dans ce procès. Plus de 170 ont souhaité plaider pour porter devant la cour la souffrance des victimes qu'ils représentent. Viendra ensuite le réquisitoire à 3 voix et 3 jours durant des avocats généraux chargés de porter l'accusation, réclamer des condamnations pour chacun des 14 accusés présents, peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Les accusés seront alors défendus par leurs avocats avant leur dernier mot à eux et enfin le verdict.
Charlotte Piret, vous suivez avec Sophie Parmentier ce procès pour Inter, compte rendu de l'audience d'hier sur franceinter.fr. Aucune explication pour l'instant au drame qui s'est joué en fin d'après-midi hier dans le Finistère. Un couple et leur fille de 12 ans morts noyés, emportés par une vague alors qu'ils se promenaient sur une digue sous les yeux de leurs 3 autres enfants qui, eux, n'étaient pas montés sur la jetée à Plogoff, à quelques kilomètres de la pointe du Raz. Pas de raison météo majeure pour expliquer le drame. Les grandes marées étaient terminées, même si les coefficients sont encore élevés. La digue était ouverte à la promenade de la famille originaire du secteur. Faut-il s'en inquiéter ? Un cas suspect de variole du singe a été détecté en Île-de-France hier. 2 cas confirmés au Canada, l'Italie et la Suède ont confirmé des cas aussi. La maladie se propage en Europe alors qu'elle est habituellement endémique en Afrique de l'Ouest. Elle n'est pas mortelle, guérie d'elle-même, mais peut parfois nécessiter une hospitalisation. Précision à 7h30.
France Inter, il est 7h08. La suite du journal. Anaïs Feuga.
Un nouveau gouvernement sera annoncé vendredi après-midi, un conseil des ministres prévu lundi selon l'Élysée, cité par Reuters à l'instant, alors que le premier tour de législative est dans 3 semaines. Les candidatures doivent être déposées ce soir 18h au plus tard. Du côté du Rassemblement national, on a presque investi un candidat dans chacune des 577 circonscriptions sans alliance avec Éric Zemmour donc. Anne Souhaitemont, s'agit-il d'un torpillage de reconquête ?
Officiellement, au RN, on l'assure, pas de revanche fratricide, pourquoi torpiller un parti qui a déjà du mal à exister ? Mais en coulisses, on l'admet, l'idée c'est bien de tuer Reconquête. Avec un candidat RN dans chaque circonscription, ils n'auront aucun député, savoure un cadre. Et pourtant, contrairement à ce qu'affirment les hautes instances du RN, des canaux de discussion ont bien été ouverts localement. Dans le Sud-Est, par exemple, où beaucoup de membres de Reconquête sont d'ex-RN, on se connaît tous, insiste l'un d'entre eux. Selon nos informations, le conseiller spécial de Marine Le Pen, Philippe Olivier, a même discrètement rencontré le vice-président de Reconquête, Guillaume Pelletier, qui cherchait à se présenter sous une bannière commune. Mais à chaque fois, la réponse a été la même. Pas d'arrangement, les charges anti-Le Pen d'Éric Zemmour ne sont toujours pas digérées. Une seule ouverture en faveur de Stanislas Rigaud, porte-parole de l'ex-candidat, mais uniquement en cas de second tour. En attendant, Marine Le Pen fait campagne pour les législatives avec un seul adversaire, Jean-Luc Mélenchon, comme si Éric Zemmour n'existait plus.
La campagne officielle débute le 30 mai. Le patron des députés LR, Damien Abad, a annoncé hier soir se mettre en congé de son parti. Le gouvernement doit donc être annoncé cet après-midi, alors que les dossiers s'empile dans les ministères, le plan social, Valourec, l'épisode de sécheresse, le réchauffement climatique, alors que Météo France est en pleine crise, faute de moyens, baisse de la subvention de l'État et saignée des effectifs dénoncés par un rapport du Sénat à l'automne. Hugo Charpentier, vous êtes allé à Toulouse, au Centre National de la Météo, prévisionnistes et climatologues disent avoir de plus en plus de mal à remplir leur mission.
Dans ce véritable campus, plus de 1200 personnes, principalement des climatologues et des prévisionnistes comme Maximilien, très sollicités ces derniers jours.
C'est clairement des grosses journées, compte tenu qu'il y a un peu d'enjeux climatiques. Oui.
Sa passion, toujours intacte, même après 20 ans de métier. Le moral, en revanche, c'est un peu plus compliqué.
C'est une adaptation permanente à la réduction de voilure, en fait.
À commencer par les effectifs, en baisse continue depuis plus de 10 ans.
On a perdu un tiers de l'effectif.
Clément Testa, délégué CGT.
On a perdu aussi beaucoup de moyens, plus d'un quart du budget de Météo France qui a été réduit. Aujourd'hui, on est à la limite de pouvoir assurer les missions premières de Météo France, qui sont la sécurité des personnes et des biens. Ça peut mettre la population en danger.
Même constat pour les climatologues, ceux qui anticipent la météo pour les 100 prochaines années, essentiel pour anticiper et s'adapter. Et pourtant...
Au labo de recherche, on nous a supprimé 5 bourses de thèse.
Gilles Dadaillon travaille à Météo France depuis 3 ans.
Il dit oui, on met les efforts et on fait le boulot pour le changement climatique. Et puis en fait, derrière, c'est de la flûte, quoi. Clairement, les moyens sont pas mis dessus, quoi. Les moyens humains, essentiellement, parce que c'est ce qu'il faut, quoi. Il faut des cerveaux qui travaillent sur le truc, qui savent de quoi ça parle, qui ont une expertise sur le sujet. Météo France serait l'organisme tout approprié à faire ça, quoi.
Mais pour l'instant, la tendance est toujours à la baisse. D'ici la fin de l'année, ce sont 60 postes qui seront supprimés.
Et le rapport sénatorial de septembre demandait aussi à l'État d'investir et de stabiliser les effectifs de Météo France. Nouveau retard et nouveau coût pour l'EPR d'Hinkley Point en Angleterre. 15 mois de retard pour la livraison des 2 unités, annonce EDF. Le coût supplémentaire est de 3 milliards de livres au moins. Lancement réussi de Starliner, la capsule de Boeing dont on vous parlait hier. Elle s'est envolée cette nuit pour l'espace à vide. Seul un mannequin rosy bardé de capteurs occupe la place du commandant. La capsule doit s'amarrer à la Station Spatiale Internationale la nuit prochaine. Si l'essai est concluant, Starliner deviendra le deuxième taxi de la NASA avec SpaceX. Et c'est justement dans l'exploration spatiale que Vangelis puisait son inspiration. Le compositeur grec, pionnier de la musique électronique, mort à 79 ans en pleine édition du Festival de Cannes. Le cinéma auquel il a donné quelques bandes originales inoubliables. Habitué de la croisette, Vangelis s'était retrouvé en compétition au festival, mais pas seulement, Delphine Evenoux.
Costume noir, nœud papillon, en 91, Vangelis a une influence directe sur le palmarès.
Monsieur Vangelis.
Il est membre du jury, une place tout à fait légitime selon Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, joint entre deux projections.
Un compositeur, c'est le troisième auteur d'un film, avec celui qui écrit le scénario et celui qui met en scène. Mais en même temps, il y a quelque chose de toujours très personnel dans une approche d'un musicien de film, de ce qu'est le cinéma. Il est à l'écoute des metteurs en scène. Il était à l'écoute de Roman Polanski, qui était un président de jury qui avait beaucoup de conviction.
Vangelis a également connu le frisson de la compétition. Avec 5 films en sélection officielle, mis en musique dans les années 70-80, Entends-tu les chiens aboyer, Francesco, le Bounty, Les chariots de feu, bien sûr, mais aussi Missing de Costa Gavras, Palme d'or 82. De quoi lui assurer une notoriété mondiale, même si pour Vangelis, les bandes originales restent des commandes, comme il l'expliquait en 92.
Je sais de comprendre d'avance le point de vue de metteur en scène, de se mettre d'accord sur une direction compatible. Mais le vrai travail commence quand les images arrivent. Je crois que je me sens un peu plus limité, parce que faire une musique de film, on commence par quelque chose qui est défini d'avance.
Dimanche prochain, un hommage particulier au compositeur disparu sera rendu lors d'une montée des marches dédiée aux musiques de film prévues de longue date.
Delphine Evenoux à Cannes pour France Inter. Pas de PSG dans le Final Four de la Ligue des Champions de handball. Les Parisiens éliminés hier par Kiel sur le fil et au bout du suspense 33-32. Et puis en tennis à Roland-Garros, les trois favoris sont dans la même moitié de tableau après le tirage au sort effectué hier soir. Djokovic, Nadal et Alcaraz. Et puis je vous rappelle l'information tombée pendant ce journal de 7h. Le nouveau gouvernement sera annoncé cet après-midi. Premier conseil des ministres lundi.
Merci Anaïs Feugat. Le zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui, de la musique pour soigner les enfants de Gaza.